Bonjour, cher frère. Belle journée. Je me suis réveillé et il y a beaucoup de neige au sol. Je ne sais pas ce que j'en pense, mais je suis dans le haillon, alors c'est comme cela, je suppose. C'est l'hiver, il faut s'y attendre. Mais l'hiver a été très doux jusqu'à présent, heureusement. Eh bien, j'aimerais commencer par un peu de mathématiques. Combien d'entre vous aiment les maths? Bon, il n'y a pas beaucoup de mains. D'accord. Ce n'est peut-être pas le sermon qu'il vous faut. Non, je plaisante. Je plaisante. Ça devrait être des maths très faciles. D'accord. Sur ta feuille, je veux que tu écrives une série de nombres. Le premier chiffre est 0. Ensuite, vous mettez un petit espace, puis un 1. D'accord. Maintenant, additionnez ces deux nombres, et à côté de l'un, mettez la somme de ces deux nombres. Cela devrait être un, n'est-ce pas? Cela devrait donc être 0, 1, 1. Maintenant, si vous ajoutez 1 et 1, les deux derniers nombres ensemble, qu'est-ce que cela donne? Cela équivaut à 2, de sorte que vous pourriez écrire un nombre 2 à la suite. Ensuite, 2 plus 1, en utilisant la même séquence. 2 plus 1 égale quoi? 3. 3 est le prochain nombre que nous pouvons écrire. La situation devient un peu plus complexe. 3 plus 2 égale quoi? 5. 5 est le chiffre suivant. Vous voyez que nous continuons la séquence. 3 plus 5 font 8. 8 est le nombre suivant. 8 plus 5 font 13. C'est donc le nombre suivant. 13 plus 8 font 21. 21 plus 13, c'est 34. 34 plus 21, c'est 55. Et 55 plus 34, c'est 89. Nous allons juste en faire un ou deux de plus ici. 89 plus 55 font un 44. C'est un chiffre intéressant. Et enfin, eh bien, cela pourrait durer indéfiniment. Nous pourrions continuer ainsi. Un 44 plus 89 font 233. Maintenant, qu'est-ce qu'on vient de? Qu'est-ce que c'est que cela? On a fait un peu de maths. Ce n'est pas très compliqué, mais nous avons simplement ajouté les deux derniers nombres de cette séquence. C'est ce qu'on appelle, peut-être en avez-vous déjà entendu parler, la suite de Fibonacci. Combien de personnes ont déjà entendu parler de cette séquence? La suite de Fibonacci est très intéressante. Mon frère est très attaché à la séquence de Fibonacci. Il est désigné. Il adore utiliser la séquence de Fibonacci lorsqu'il le peut dans ses créations, parce que la séquence de Fibonacci, et ce que nous allons voir ici dans un instant, je vais y revenir, est lié à ce que l'on appelle le nombre d'or. C'est un terme très courant dans le monde du design. Pourquoi? Pourquoi cette séquence de chiffres est-elle si intéressante? Permettez-moi de vous lire un extrait du site hilairarboretum.com. Cela peut paraître étrange. Pourquoi est-ce que je cite un arboretum, où l'on parle de fleurs? Monsieur Denis connaît très bien les arboretums. Vous comprendrez dans un instant le lien avec la séquence de Fibonacci. Il est bien connu que les chiffres de Fibonacci, ces nombres que vous voyez, sont présents dans tout l'univers. Ils sont partout dans le monde. Encore et encore, encore et encore, encore et encore, encore et encore, vous voyez ces nombres et ce genre de séquences. Pourquoi? Hilairarboretum.com dit ceci. La numération de Fibonacci n'est pas toujours représentée dans la nature, mais vous la trouverez plus souvent que vous ne le pensez. Regardez les graines d'un tournesol. C'est fascinant. Je vous encourage, si nous avons une autre année et que nous pouvons aller planter des tournesols dans le jardin communautaire, à sortir et à prouver que ce que je vais dire est correct. Regardez les graines d'un tournesol. Elles sont serrées en spirale. Et si vous les comptez, si vous comptez les graines, vous verrez des nombres de Fibonacci dans chaque direction, 55 dans le sens des aiguilles d'une montre. Regardez vos notes. Vous pouvez voir que 55 est l'un des nombres que nous avons énumérés, et que 34 ou 89 vont dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ainsi, si vous comptez le nombre de graines dans le grand centre d'un tournesol, vous en verrez 34, 55 ou 89, inévitablement. C'est ainsi que Dieu l'a conçu. Mais cela ne s'arrête pas avec un tournesol. Regardez un ananas, dit ce site web de l'Arboretum, regardez un ananas, un artichaut. Les nénuphars sont des œillets. Encore et encore, encore et encore, vous trouverez les mêmes chiffres. Cela devient curieux. Même si vous regardez des fleurs qui ne forment pas de spirale, vous constaterez souvent que le nombre total de pétales correspond au nombre de Fibonacci. Les iris sont 3 pétales. Regardez votre liste, vous y trouverez 3 pétales. Les phlox, la fleur appelée phlox, ont 5 pétales. Regardez votre liste, vous y trouverez 5 pétales. Les delphiniums en ont 8. D'accord, monsieur Donnet, pardonnez-moi. Les cinéraires en ont 13, et les suspensions aux yeux noirs en ont 21, tous des nombres de Fibonacci. Est-ce que cela vous étonne un peu? De quoi s'agit-il? Comment cela se produit-il? Comment est-ce possible? Mais il n'y a pas que les fleurs. J'en ai fini avec la citation de cette page de l'Arboretum. Si vous regardez les conques, certains types de coquillages, la forme en spirale qu'ils forment implique la séquence de Fibonacci. Je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails. Si cela vous intéresse, vous pouvez faire des recherches en ligne après coup, mais c'est le cas. Les pommes de pin, vous voyez la suite de Fibonacci. Les graines de tournesol, comme nous l'avons dit. Les nids, la façon dont les oiseaux construisent leur nid, pour certains d'entre eux, implique la séquence de Fibonacci et la façon dont elles s'enroulent en spirale. Les feuilles sur les tiges des fleurs, la façon dont les feuilles poussent sur les tiges des fleurs, le nombre de feuilles et l'endroit où elles poussent, implique la séquence de Fibonacci. Même les galaxies, la Voie lactée, font appel à la séquence de Fibonacci. Elle commence par être petite et s'enroule en spirale, elle devient de plus en plus grande, tout comme ces nombres qui commencent par être petits et qui deviennent de plus en plus grands. Si vous savez ce qu'est un rapport, vous prenez un nombre et vous le divisez par l'autre nombre. Les rapports entre chaque nombre. Si vous regardez un divisé par un, par exemple, le rapport est d'un. Si l'on divise 2 par 1, le rapport est de 2. Si l'on divise 3 paragraphes 2, le rapport est d'1.5. 5 divisé paragraphe 3, en descendant la séquence, c'est 1.67. Et si vous continuez à descendre, si vous continuez à diviser ces nombres de plus en plus grands, l'un après l'autre, il se rapproche de ce rapport appelé 1,618. C'est là que les choses se compliquent un peu, mais ce n'est pas plus compliqué que ce que je viens de dire. Pensez à ce ratio appelé 1,618. Au fur et à mesure que ces nombres deviennent de plus en plus grands dans la suite de Fibonacci, ils se rapprochent de ce ratio appelé le nombre d'or, 1,618. Il s'agit d'un nombre irrationnel, qui continue donc à l'infini. Ce nombre d'or est connu depuis les années 1200, au début des années 1200, mais plus officieusement depuis les années 200 ou 300 de notre ère. Il n'est donc connu sous sa forme la plus authentique que depuis le dernier tiers de l'existence de l'humanité. Mais si vous deviez dessiner ce rapport, 1 à 1.618, je vous montrerai cette feuille de papier. Il s'agit d'une feuille de papier de format légal. Si vous deviez attribuer à cette feuille le rapport d'un, elle serait presque un peu plus longue, mais assez proche. Cela vous donne une idée. Celui-ci est environ 1 × 6 × 8 fois plus long que celui-là. Le rectangle que vous voyez ici est donc assez proche de ce que vous considéreriez comme le nombre d'or, le rectangle, 1 par 1.618. D'accord? Passons maintenant au chapitre 9 de la Genèse. Quel est le rapport entre le nombre d'or, ou la séquence de Fibonacci, et ce sermon? Passons au chapitre 9 de la Genèse et au verset 6. Genèse, chapitre 9 et verset 6. Nous lisons le début du verset 9 ou du chapitre 9. Il est dit, Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Et la crainte que vous inspirez, et l'effroi que vous inspirez, seront sur tous les animaux de la terre, et sur tous les oiseaux, et sur tout ce qui se meut sur la terre, et sur les poissons et la mer, qui sont dans votre main, sont livrés. Tout ce qui se meut et qui vit vous servira de nourriture, comme l'herbe verte. Vous ai-je donné toutes choses? Le déluge est donc terminé. Dieu dit, reconstituez la terre, et nous arrivons au verset 5. J'exigerai le sang de vos vies de la main de tout animal, je l'exigerai. Et de la main de l'homme et de la main du frère de tout homme, je demanderai la vie de l'homme. Celui qui répandra le sang de l'homme, c'est par l'homme que son sang sera répandu, car c'est à l'image de Dieu que l'homme a été fait. C'est sur ce point que nous allons nous concentrer. Juste après le déluge, Dieu a dit à Noé, « Ne tue pas tout le monde. Nous ne voulons pas qu'il y ait beaucoup de meurtres, car Dieu dit qu'il a créé l'homme à son image. » Quel est le rapport avec la séquence de Fibonacci ou le nombre d'or? Les artistes, les architectes, les musiciens et les auteurs, toutes sortes de personnes qui travaillent dans des domaines créatifs, répètent certains thèmes dans leurs œuvres. Si je vous disais que vous allez dans un musée d'art et que vous voyez un tableau, une peinture de Monet, vous pourriez très bien la distinguer. Si vous vous y connaissez en art, vous pouvez le distinguer des autres artistes. Vous pourriez dire que Monet a un style particulier. C'est un peintre de type impressionniste et le thème de l'impressionnisme est omniprésent dans ses peintures. C'est comme une empreinte digitale, une empreinte de Monet. Vous savez que c'est sa peinture. Il en va de même pour la musique. La musique de Mozart est très reconnaissable, c'est un type particulier de musique baroque. On ne peut pas confondre une chanson, un morceau que Mozart a écrit avec un morceau que les Beatles ont écrit. Les Beatles ont également leur propre style. Vous reconnaissez une chanson des Beatles quand vous l'entendez parce qu'ils ont cette saveur dans toute leur musique. On reconnaît certains artistes au style qu'ils impriment à leurs œuvres. Il en va de même pour l'architecture ou les auteurs de livres. Si vous lisez certains livres, il y a des thèmes qui reviennent tout au long du livre et vous pouvez dire que c'est l'écriture de l'auteur. Rappelez-vous que dans la 9e et 6e partie de la Genèse, Dieu dit que nous sommes faits à son image. Dieu laisse des empreintes digitales dans toute sa création, tout comme n'importe quel autre artiste. Pensez donc à tout cela dans cette perspective. Faut-il s'étonner que ce qu'on appelle le nombre d'or se retrouve des dizaines de fois, non seulement dans la société, mais aussi dans le monde naturel, ce qui est déjà étonnant en soi? Quelles sont les chances que cela se produise? Les chances sont minces, voire nulles. Elles sont tout simplement nulles sans un créateur qui a instillé ses empreintes digitales dans toute la création, mais écoutez bien, Dieu dit qu'il a créé l'homme à son image. La séquence de Fibonacci se retrouve des dizaines de fois rien que sur notre corps physique. Les rapports entre la taille de nos yeux, la largeur de nos yeux et d'autres éléments de notre visage. Le rapport de Fibonacci où le nombre d'or se retrouve probablement 4 ou 5 fois rien que sur notre visage, entre la hauteur de notre menton et celle de notre nez ici. Regardez vos mains. Regardez tous vos mains. Regardez le premier chiffre de votre doigt. Le rapport entre le premier chiffre et le deuxième chiffre est à peu près le nombre d'or. Le rapport entre le deuxième chiffre et le troisième chiffre est à peu près le nombre d'or. Le rapport entre le doigt et, excusez-moi, ce chiffre est de là à votre poignet, c'est la même chose. De la main au coude, c'est la même chose, encore et encore, encore et encore. Du nombril au sol, du nombril au sommet de la tête, c'est le nombre d'or. Du genou au sol et du genou au nombril, c'est le nombre d'or. Ce n'est pas parfait, d'accord? Comprenez-le. Que nous avons tous différents. Nous ne sommes pas tous exactement pareils, mais c'est le fait que Dieu a instillé ce curieux rapport unique, non seulement dans l'univers, dans les fleurs et les pommes de pin, dans les nids d'oiseaux et dans la galaxie de la Voie lactée elle-même, mais il l'a fait encore et encore sur notre corps physique. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Dieu nous ressemble. Dieu a vu qu'il ressemblait à ceci et a utilisé ce rapport dans toute sa création comme une empreinte digitale. La preuve qu'il existe pour ceux qui le cherchent. Les scientifiques diront simplement. Oh, ils expliqueront en disant, eh bien, ce n'est pas parfait. Ces ratios ne sont pas parfaits ici et là, et ils expliqueront tout cela. Mais vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas nier le fait que Dieu nous a donné quelque chose de si simple et qui se répète encore et encore dans le monde entier, y compris sur notre propre corps. Alors comprendre cela. Oh, j'ai oublié de dire aussi. L'âne aussi. Vous souvenez-vous des nombres 21 et 34 dans la séquence de Fibonacci que nous avons écrite pour commencer? La structure de notre propre ADN fait 34 angstrom sur 21. Je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que c'est le nombre d'or. Je sais juste que je peux regarder en ligne et lire que mon ADN implique le nombre d'or. C'est incroyable, mes frères. Cela vient de notre ADN. Il est intégré en nous, dans tous les ADN. Beaucoup d'ADN ont ce même ratio. Nous sommes faits à l'image de Dieu, et ce ratio est important pour lui. Il s'agit d'un exercice que j'ai fait récemment et je me suis dit, c'est vraiment très intéressant, ce que je découvre. Comprendre cette empreinte unique de Dieu, si je puis dire, dans toute la création, m'a fait quelque chose. Cela m'a changé. Bien sûr, j'ai déjà prouvé que Dieu existait. Je ne serais pas baptisé sans l'avoir fait. Cela fait partie du processus de baptême, de prouver que Dieu existe. Mais, bien sûr, je l'ai fait. Mais cet exercice, d'une certaine manière, a rendu Dieu réel pour moi d'une façon nouvelle et excitante. Je n'avais jamais vu cela auparavant. Je ne l'avais jamais envisagé auparavant. Et je ne regarderai plus jamais une fleur ou une plante, la galaxie ou mon propre ADN, je ne regarderai plus jamais aucune de ces choses de la même manière parce que je les verrai désormais comme des empreintes digitales de Dieu. Je les verrai comme des preuves de l'existence de Dieu. Qu'il existe un grand créateur, plus qu'une simple beauté. Les fleurs sont belles. Elles ont toujours été belles pour moi, mais je ne les verrai plus de la même manière maintenant que je comprends qu'elles ont 3 ou 5 ou 13 ou 21. Quoi? Quelle est la probabilité d'une telle chose? Pourquoi pas 16 pétales, Pourquoi pas 16 pétales? La réponse est parce que Dieu l'a voulu ainsi et qu'il a voulu que nous le voyions. Il est important pour lui que nous le voyions. Et maintenant, je vois cela comme une façon dont Dieu essaie de communiquer avec moi, en me montrant qu'il est vivant, qu'il existe. Prouver que Dieu existe peut être une expérience académique ou une expérience réelle. Cela peut rendre Dieu vivant dans votre esprit au-delà du simple fait de dire, de manière académique, que je sais et que je peux prouver que Dieu existe. Prouver que Dieu existe a pour but de le rendre réel. Le rendre vivant dans nos vies. Je vais donc vous poser la question, la même que celle que je me suis posée à moi-même. Dieu est-il vivant dans votre vie? Est-il vivant dans votre vie? Est-il vivant? Est-il réel? Prouver l'existence de Dieu d'un point de vue académique, c'est génial. C'est merveilleux. Comme je l'ai déjà dit, nous ne pouvons pas être baptisés sans avoir fait cela au préalable. Mais prouver l'existence de Dieu de manière académique et voir son existence, voir de ses propres yeux qu'il existe et qu'il est vivant, ce sont deux choses différentes. Passez à Hébreux, chapitre 11. Hébreux, chapitre 11. Nous lirons le verset 24. C'est le chapitre de la foi, c'est par la foi que Moïse, parvenu à l'âge mûr, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, préférant souffrir l'affliction avec le peuple de Dieu, plutôt que de goûter pour un temps les plaisirs du péché, estimant que l'opprobre du Christ était une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, parce qu'il avait égard à la rétribution de la récompense. C'est par la foi qu'il abandonna l'Égypte, sans craindre la colère du roi, car il supporta la souffrance comme s'il voyait l'invisible. Moïse était capable de regarder à travers la vie physique qu'il vivait, l'existence physique qu'il vivait, et de voir le Dieu invisible. Le Dieu invisible était réel pour Moïse. Il était très vivant dans l'esprit de Moïse. Mais comment pouvons-nous prouver que Dieu travaille activement dans nos vies si nous ne pouvons pas le voir? Comment pouvons-nous le prouver? Comment prouver que le vent existe? C'est une question similaire. Le vent est invisible, mais comment prouver qu'il existe? Eh bien, pour savoir que le vent existe, nous pouvons le sentir sur notre peau, nous pouvons le voir faire bruisser les feuilles lorsque nous passons à côté de lui. Lorsqu'il y a beaucoup de vent et qu'un ouragan passe, on peut voir la destruction, les arbres abattus, les maisons renversées, les toits qui se détachent. C'est ainsi que nous savons que le vent existe, non pas parce que nous pouvons le voir physiquement, mais parce que nous ressentons et voyons ses effets. C'est ainsi que nous prouvons l'existence de la gravité. La gravité est invisible, mais nous savons tous qu'elle existe parce que nous en faisons tous partie en ce moment même. Nous sommes tous assis sur le sol, nous ne flottons pas au plafond. Nous savons que la gravité existe, mais elle est invisible. La raison pour laquelle nous savons qu'elle existe est que nous voyons les effets de la gravité et les effets du vent. Il en va de même pour Dieu. Nous pouvons prouver que Dieu existe, et nous pouvons non seulement le prouver, mais aussi savoir qu'il existe et constater son existence, non pas parce que nous le voyons physiquement, car il est invisible, mais plutôt parce que nous voyons les effets que Dieu a dans nos vies. C'est ainsi que nous prouvons l'existence de Dieu, le Dieu invisible. C'est ainsi que nous voyons l'existence de Dieu. Il devient vivant pour nous et pas seulement un être invisible que nous pouvons approcher, assis sur un trône, lorsque nous nous présentons devant lui dans la prière. Il est bien plus que cela. Il travaille activement dans nos vies, mais comment savoir où chercher? Les effets et les preuves du vent et de la gravité nous entourent et sont visibles partout, mais ce n'est pas parce qu'ils sont présents que nous en sommes conscients. Combien d'entre nous se sont promenés sans penser une seule fois au vent qui soufflait? Tout le temps, si je vais me promener, je ne vais pas penser au vent. Je penserai au vent s'il y a un coup de vent qui manque de me renverser. Dans ce cas, je penserai au vent, mais la plupart du temps, lorsque nous nous promenons, nous ne pensons pas au vent. Mais si nous nous arrêtons pendant notre promenade et que nous pensons activement au vent, nous en verrons les preuves partout. Nous voyons le vent souffler dans les arbres. Nous verrions les nuages passer. Tout cela serait une preuve de l'existence du vent, mais nous devons y réfléchir. Il en va de même pour Dieu. Il y a des preuves de l'existence de Dieu dans nos vies, partout. La question est de savoir si nous en sommes conscients. Ce n'est pas qu'il existe. Bien sûr qu'il existe. Combien d'entre nous connaissaient la séquence de Fibonacci avant de venir ici et se sont dit que c'était une preuve puissante de l'existence de Dieu? Je sais que je ne le savais pas jusqu'à ce que je l'étudie il y a quelques jours. J'ai été époustouflé et c'est ce qui a donné naissance à ce sermon. Ce que cela va faire pour moi maintenant, c'est changer la façon dont je vis ma vie. Je verrai les fleurs différemment. Je ne les verrai pas seulement comme étant belles, je les verrai comme étant créées par Dieu, conçues par Dieu avec cette empreinte digitale qu'il nous a donnée. Passez au premier chapitre des Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 1. Nous lirons le verset 7. Voici ce qui est écrit. 1 Thessaloniciens 1 et verset 7. Vous avez servi d'exemple à tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe, car c'est de chez vous que la parole du Seigneur a été annoncée. Car c'est de vous qu'est partie la parole du Seigneur, non seulement en Macédoine et en Achaïe, mais encore dans tous les lieux où votre foi s'est répandue à la face de Dieu, de sorte que nous n'avons besoin de rien dire. Car ce sont eux qui nous montrent de quelle manière nous sommes entrés chez vous, et comment vous vous êtes détournés des idoles pour revenir à Dieu. Ils parlaient aux païens, aux grecs, aux thessaloniciens, ou thessaloniques, excusez-moi, de la manière dont ils se sont détournés des idoles, pour servir le Dieu vivant et véritable. Tous les autres dieux sont morts, la Bible le dit clairement, mais le Dieu que nous servons est en fait vivant, et c'est là toute la différence. Nous savons qu'il est vivant d'un point de vue académique, mais voyons-nous qu'il est vivant? Voyons-nous qu'il est vivant comme Moïse a vu qu'il était vivant et actif dans sa vie? Les preuves sont partout. Mais encore une fois, sommes-nous conscients de ces preuves? Les recherchons-nous? Les points que nous allons aborder ne concernent pas seulement ceux qui ont été baptisés. Vous pouvez penser à l'Ecclésiaste 12 et au verset 1, qui dit « Souviens-toi de ton Créateur dès les jours de ta jeunesse. » Il n'est pas nécessaire d'être baptisé. Franchement, tous ceux qui sont baptisés dans l'Église prouvent l'existence de Dieu avant d'être baptisés afin d'être baptisés. Il s'agit donc clairement d'un message qui concerne tout le monde, y compris ceux qui ne sont pas baptisés. Vous pouvez le prouver. Vous pouvez prouver l'existence de Dieu dans votre vie, et nous devrions le faire. Et nous pouvons chercher cette preuve chaque jour de notre vie, quel que soit notre âge. Nous allons donc passer en revue quelques points. Les domaines dans lesquels nous pouvons voir des preuves que nous pouvons regarder dans nos vies et voir les effets que Dieu a, qu'il est vivant. Parce que nous ne cherchons pas un Dieu physique. Nous ne pouvons pas regarder dehors et voir Dieu assis dans l'auditoire. Il est invisible. Ce n'est pas comme cela que cela marche. Comme le vent, nous devons en chercher les effets. Nous devons chercher les preuves que Dieu travaille avec nous par d'autres moyens. Nous allons passer en revue une série de ces points. Et j'espère que cela vous changera la vie autant que cela m'a changé la mienne. Le premier domaine dans lequel nous pouvons chercher Dieu et voir qu'il travaille activement avec nous est facile, c'est dans les jours de prospérité. Dans la prospérité, Dieu nous a donné. Il nous donne des réponses à nos prières, des délivrances, des protections, toutes sortes de choses. Ce sont des jours de prospérité. Passez au chapitre 7 de l'Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 7. Verset 14, un verset très familier. Il dit ceci, nous lirons juste la première partie, au jour de la prospérité, soyez dans la joie. Au jour de la prospérité, soyez joyeux. Lorsque Dieu nous bénit dans notre vie, c'est souvent de manière intime et personnelle. Vous savez, je pense à... Je disais à ma femme récemment, après avoir emménagé dans notre maison il y a un peu plus d'un an maintenant, je disais, vous savez, une chose qui serait géniale, une chose vraiment géniale que nous pourrions faire, c'est juste comme la touche finale à notre maison, les choses que nous voulions. Si nous avions une liste de choses que nous devons acheter pour la maison ou l'une des dernières choses qui serait vraiment géniale à avoir, c'est d'avoir quelques petits tabourets de bar ici à la table, au comptoir. Et j'ai dit, mais nous avons un passage étroit et serré entre le comptoir et le canapé, alors les tabourets de bar ne doivent pas être trop grands. Alors j'ai dit, pour qu'ils n'aient pas l'air intrusifs et trop encombrants, ou qu'ils ne prennent pas trop de place dans cette allée. Ce serait bien de trouver des tabourets en fer forgé. Et elle a dit, oh, oui, c'est une bonne idée. Alors on l'a dit. Nous n'avions pas l'intention d'acheter quoi que ce soit. Le dimanche suivant, nous ne cherchions rien. En fait, je cherchais une veste chez Goodwill pour voir si je pouvais trouver un autre manteau d'hiver. Ma femme m'a appelé de l'autre côté de la boutique et m'a dit « Hé, regarde cela. Pour quelques centimes par rapport à ce que vous paieriez si vous les achetiez sur le marché Facebook, ou si vous les achetiez neufs, nous avons trouvé trois tabourets de bar en fer forgé qui conviendraient parfaitement à cet endroit. Dieu nous a bénis en sortant de nulle part. Comment aurions-nous pu nous attendre à voir ces choses? Et pour quelques centimes. Pour presque rien, nous avons acheté ces chaises. Dieu l'a vu. Je n'ai pas été délivré d'un énorme accident de voiture, et ma vie a été sauvée, et une voiture en a traversé une autre. Non, ce n'était pas cela. Ce genre de choses arrive, bien sûr, et nous pouvons en être très reconnaissants, mais il s'agissait d'une bénédiction plus petite, mais d'une bénédiction tout de même. Je l'ai regardé et j'ai dit, ma femme et moi, Dieu nous a bénis dans ce domaine. C'est incroyable. Nous ne l'avons même pas cherché. Nous nous contentions de continuer et de ne pas avoir de tabouret et de bar. Nous avons passé autant de temps sans en avoir. Ce n'est pas comme si nous en avions besoin, mais c'était vraiment, c'était comme si Dieu nous disait, « Hé, je suis avec vous, nous sommes avec vous. Nous sommes avec vous, et il nous a donné cette petite bénédiction dans nos vies. Nous avons une autre bénédiction à venir, un autre bébé. Ce sera une fille, nous l'avons appris. Nous en sommes très heureux, si vous ne le saviez pas. Nous nous réjouissons donc des bénédictions à divers égards, mais c'est le genre de choses qui nous arrivent souvent personnellement lorsque nous voyons une prière exaucée, ou lorsque nous voyons Dieu nous donner quelque chose que nous n'attendions peut-être pas, à l'improviste. Ce sont de petites choses qui nous permettent de dire, vous savez quoi? Je ne vais pas me contenter de voir cela comme une bonne chose. Oh, quelle chance que j'ai trouvé ces tabourets de bar dont nous venions de parler il y a quelques jours, à un prix si bas. Plutôt que d'y voir une simple coïncidence, y voyons-nous une bénédiction? Y voyons-nous la main de Dieu qui travaille activement dans notre vie? Et remarquez ici, au chapitre 7 et au verset, excusez-moi, au chapitre 7 et au verset 14. Il est dit, dans les jours de prospérité, soyez joyeux. Soyez joyeux. Comment pouvons-nous être joyeux? Afin d'accomplir ce commandement d'être joyeux, nous devons d'abord reconnaître que Dieu nous a donné la bénédiction en premier lieu. Nous devons savoir que ce sont des jours de prospérité. Et pour savoir que ce sont des jours de prospérité, il faut que nous reconnaissions consciemment et en toute connaissance de cause que c'est Dieu qui nous bénit. Pensez donc à ce genre de... C'est un point évident. Ce n'est pas difficile à comprendre. Lorsque nous pensons à l'action de Dieu dans nos vies, la première chose à laquelle nous pensons est souvent lorsque Dieu nous bénit. Oui, j'ai été béni. C'est Dieu qui a agi activement. J'ai prié pour ceci, cela ou autre chose, et Dieu a répondu à ma prière. Passez au psaume 143. Psaume 143 et premier verset. Prière de David, psaume de David. Écoute ma prière, Seigneur, prête l'oreille à mes supplications. Réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. Monsieur Schloeffel a récemment donné un sermon sur la prière exaucée. Or, David savait que pour être exaucé, il faut d'abord demander dans la prière. Choc des chocs. Il faut prier pour être exaucé. Donc, si nous voulons activement voir Dieu nous exaucer et travailler activement dans nos vies, frères, la première étape est vraiment d'aller prier, pour commencer. Il faut savoir quoi demander. Si vous voulez être exaucé, si vous voulez plus de preuves que Dieu travaille avec vous et qu'il est actif dans votre vie, priez et Dieu répondra à vos prières. Parfois, il choisit de ne pas le faire. Parfois, il tarde à le faire. Parfois, il s'abstient pour des raisons plus importantes. Mais lorsque vous voyez une prière exaucée dans votre vie, c'est la preuve que Dieu existe et vous croyez qu'il est vivant. C'est donc le premier point. C'est très simple. Les jours de prospérité sont des moyens faciles pour nous de rechercher régulièrement l'implication de Dieu dans nos vies et de voir qu'il est vivant. Mais qu'en est-il de la seconde moitié de ce verset, Ecclésiaste 7, 14? Lisons-la. Ecclésiaste 7, 14. Nous pouvons y revenir. Vous savez tous ce que dit la deuxième partie, mais relisons-la. Verset 14. Au jour de la prospérité, sois joyeux, mais au jour de l'adversité, considère que Dieu a opposé l'un à l'autre, afin que l'homme ne trouve rien après lui. L'avez-vous remarqué? Il est clair que Dieu nous bénit dans nos vies, mais avez-vous réalisé que c'est aussi Dieu qui a parfois mis de l'adversité dans nos vies, ou du moins qui permet l'adversité? Deuxièmement, considérons-nous les épreuves, l'adversité, les difficultés, les tribulations dans notre vie comme la preuve que Dieu travaille avec nous, comme la preuve que Dieu est dans notre vie et qu'il travaille activement, parce qu'il a opposé l'un à l'autre. Il a parfois introduit des épreuves dans nos vies ou a permis que des épreuves surviennent dans nos vies afin que nous puissions nous forger le caractère nécessaire pour lui ressembler davantage. Avons-nous déjà considéré les épreuves et les tribulations, les jours d'adversité, comme une preuve et une évidence que Dieu est vivant? Peut-être qu'à partir de maintenant, nous le ferons, parce qu'une fois de plus, Dieu a mis l'un contre l'autre. J'oserais dire que la plupart d'entre nous n'ont peut-être jamais pensé ou n'ont jamais pensé consciemment aux épreuves de notre vie comme des moyens de prouver l'existence de Dieu. La plupart du temps, nous pensons à l'autre côté de la médaille, aux bénédictions. Passez au psaume 34. Psaume 34. Nous ne lirons qu'un seul verset, le psaume 34 et le verset 19. Il y est dit, les souffrances du juste sont nombreuses, mais l'Éternel le délivre de toutes. Voici un point intéressant. Dieu nous donne des jours de prospérité. Mais à un moment donné, à un moment naturel, Dieu dit, il est temps pour toi de forger ton caractère. Je vais te permettre, Peut-être même parfois te faire subir une épreuve, ou peut-être as-tu provoqué l'épreuve toi-même afin que tu puisses développer ton caractère pendant ces jours d'adversité. L'épreuve, en elle-même, devrait être la preuve que Dieu est vivant dans nos vies, car sans épreuve, mes frères, nous ne sommes pas considérés comme des justes. Nombreuses sont les afflictions du juste. Nombreuses. Si nous traversons des épreuves, c'est la preuve que Dieu est avec nous. Mais savez-vous ce qui est aussi encourageant? À travers l'épreuve, si nous la voyons de la bonne manière, si nous utilisons l'épreuve comme Dieu l'a prévu pour forger notre caractère, pour apprendre des leçons, pour grandir, pour vaincre. À travers cette épreuve, Dieu dit qu'il nous délivrera de toutes ces épreuves. Et d'une certaine manière, lorsqu'il nous délivre de ces épreuves, il nous montre encore une fois plus de prospérité. Il nous délivre à travers l'épreuve. Il nous sort de l'épreuve et nous montre que c'est lui qui le fait. Il nous le répète sans cesse, que nous soyons dans des jours de prospérité ou dans des jours d'adversité. Jours de prospérité, jours d'adversité. Il les met dans les deux sens afin que nous puissions le voir travailler, travailler activement avec nous, tout au long de ces épreuves ou de ces jours de prospérité. Saisissez la puissance de cela, car si Dieu permet les épreuves, c'est pour pouvoir nous en délivrer et nous prouver qu'il existe. C'est une chose étonnante sur laquelle il faut vraiment s'asseoir et méditer quand on en a le temps. Nous ne devrions plus jamais voir les épreuves et les tribulations de la même manière. Tout comme nous ne verrons plus les fleurs de la même manière. De même que nous ne verrons plus les galaxies spirales de la même façon. Ou nos doigts. Combien d'entre nous pourraient imaginer que ce ratio se retrouve des dizaines de fois sur notre corps? Et probablement plus que cela, d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer. Nous ne devrions plus jamais voir les épreuves et les tribulations de la même manière. Pour un esprit converti, pour quelqu'un avec qui Dieu travaille, qui a été baptisé ou qui a reçu l'Esprit de Dieu, ces épreuves sont la preuve que Dieu est réel. Et lorsqu'il vous en délivre, c'est aussi la preuve qu'il est réel. Voici le point suivant. La preuve que Dieu est avec nous. La preuve que Dieu est vivant dans nos vies, c'est que la parole vivante de Dieu est dans notre esprit. Passez au chapitre 3 de l'Épître aux Colossiens. La parole vivante de Dieu est dans votre esprit. Colossiens, chapitre 3. Colossiens 3, nous reprenons au verset 14. Paul, s'adressant aux Colossiens, dit, par-dessus tout cela, mettez l'amour. J'ai récemment donné un sermon sur l'amour. Par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Que la paix de Dieu règne dans vos cœurs, car c'est à elle que vous êtes appelés en un seul corps, et soyez reconnaissants. Que la parole du Christ habite en vous richement en toute sagesse, vous enseignant et vous exhortant les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des chants spirituels, chantant au Seigneur avec grâce dans vos cœurs. Concentrez-vous sur la première partie du verset 16. Que la parole du Christ habite abondamment en vous en toute sagesse. Si nous laissons la parole de Dieu habiter richement en nous, elle est toujours prête à nous aider à apporter la paix dans notre vie quand nous en avons besoin. Avez-vous déjà été dans une situation difficile? Peut-être luttez-vous contre quelque chose, ou contre une mauvaise attitude, ou contre n'importe quoi. Cela peut être n'importe quoi. Et vous êtes dans une situation difficile, et tout d'un coup, un passage des Écritures vous vient à l'esprit et vous met en paix. Il vous apporte la paix. Ou bien une pensée vous vient à l'esprit et vous apaise. Ou franchement, parfois, je l'ai déjà fait, il suffit de demander la paix de Dieu, et tout d'un coup, on se sent différent. C'est comme une vague de paix qui dissipe l'anxiété, la frustration ou tout ce qui pouvait l'être à ce moment-là. Lorsque cela se produit, c'est que la parole de Dieu est en vous, en particulier lorsque vous pensez aux Écritures ou lorsque vous pensez à quelque chose qui vous aide à surmonter quelque chose. Disons que vous luttez contre la fornication. Si quelque chose vous vient à l'esprit, fuyez la fornication. Fuyez la fornication. Fuyez-la. Fuyez-la. Ce verset peut vous venir à l'esprit si vous êtes tenté à un moment ou à un autre. C'est l'Esprit de Dieu qui agit en vous. C'est la parole de Dieu implantée dans votre esprit, active. Nous pouvons très facilement passer outre, comme lorsque nous nous promenons et qu'il fait beau et léger, et que nous ne pensons pas du tout au vent. Mais reconnaissons-nous activement que lorsque cela se produit, nous nous arrêtons et disons « Waouh, 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 ce n'est pas moi qui ai fait cela. C'est l'Esprit de Dieu qui est en moi. C'est la parole de Dieu construite en moi par son Esprit Saint qui m'a apporté l'aide et le soutien dont j'avais besoin à ce moment critique. Le reconnaissons-nous? Nous arrêtons-nous, reconnaissons-nous et considérons-nous que c'est la preuve que Dieu est vivant dans ma vie? Ce genre de choses ne se produit pas nécessairement dans le monde. Les gens n'ont pas l'Esprit de Dieu implanté dans leur esprit. La parole de vérité n'est pas ancrée dans leurs pensées. C'est la preuve que l'Esprit de Dieu travaille activement avec nous et avec nos consciences. Parfois, nos consciences nous piquent. Voyons-nous que lorsque nos consciences nous piquent et nous disent « Oh, tu ne devrais vraiment pas faire cela ?»« Ne fais pas cela. »« Ne fais pas cela. » »« Ne t'en mêle pas. » C'est la preuve que Dieu est avec vous, qu'il travaille activement avec vous. Encore une fois, c'est une chose de savoir que cela arrive et de le voir arriver, mais de s'arrêter et de reconnaître que cela arrive et d'y voir la preuve qu'il y a un Dieu vivant. C'est de cela qu'il s'agit dans tout ce message. Intériorisez cela. S'arrêter pour prendre le temps de penser, « Oh là là, Dieu est vivant. » Il travaille avec moi. Sommes-nous reconnaissants lorsque ces choses se produisent? C'est le point suivant. Le quatrième point, un peu plus long, est lié à l'introduction. La quatrième façon de voir les effets de Dieu dans notre vie est de méditer sur la création et d'apprendre à la connaître. Méditer sur la création et apprendre à la connaître. Reprenez le chapitre 1 de l'Épître aux Romains. Lisez le verset 17. Romains 1, 17. Il est dit ceci, « C'est là, en effet, que se révèle la justice de Dieu, de foi en foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Car la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui retiennent la vérité dans l'injustice. Vous savez, il y a un temps à venir où les gens recevront la colère de Dieu, et vous verrez pourquoi la colère de Dieu vient sur les gens dans le futur. C'est parce qu'ils rejettent Dieu. La colère de Dieu ne s'abat pas sur des gens qui ne la méritent pas. Dieu ne veut pas attirer la colère sur les gens, mais il sait qu'il doit attirer la colère sur les gens s'ils n'obéissent pas ou s'ils ne reconnaissent pas Dieu pour ce qu'il est. Continuons à lire. Au verset 18, « Car la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui retiennent la vérité dans l'injustice, parce que la connaissance de Dieu est manifeste en eux, parce que Dieu la leur a montrée. » Dieu a montré la séquence de Fibonacci au reste de l'humanité de la même manière qu'il l'a montrée à vous et à moi aujourd'hui. Ils ne savent rien. Ils en savent probablement plus que vous et moi et ils connaissent bien plus que la simple séquence de Fibonacci, mais le problème, c'est qu'ils l'ignorent. Ils n'y voient pas une empreinte de Dieu dans l'univers. Vous et moi le ferions. À cause de ce verset. Il est dit ici, au verset 19 et 20, « Car les choses invisibles de Dieu, depuis la création du monde, se voient clairement. » Nous les voyons dans les pétales de fleurs, dans les coquillages, dans l'univers, dans notre ADN, dans tout notre corps, rien qu'avec la suite de Fibonacci et le nombre d'or. En effet, les choses invisibles qu'il a accomplies depuis la création du monde sont clairement visibles et comprises par les êtres vivants. Elles le comprennent. Je n'ai pas appris cela tout seul. Je suis allé sur Google. Une personne non convertie m'a parlé de la suite de Fibonacci. Ils en savent beaucoup plus que moi. Ils savent les mêmes choses que vous et moi. Mais voici le problème. On comprend, par les choses qui ont été faites, la puissance éternelle et la divinité, afin que ceux qui sont sans excuse. Ils l'ignorent. Ils sont sans excuse. Toutes les preuves contenues dans la brochure de M. Pack sur l'existence de Dieu ne sont que la pointe de l'iceberg des preuves de l'existence de Dieu. Vous n'avez pas besoin de vous arrêter là. Trouvez vos propres raisons pour lesquelles Dieu existe dans votre vie. C'est là tout l'intérêt de ce livre. Ce point consiste à méditer sur la création de Dieu et à en apprendre davantage à son sujet. Prenez le temps, dans votre vie personnelle et dans vos études, de prouver que Dieu existe en étudiant des choses intéressantes. Il suffit de demander à Google et à l'IA aujourd'hui, avec toutes les technologies dont nous disposons, quelles sont les choses qui se répètent dans la nature? La séquence de Fibonacci apparaît, d'autres choses apparaissent, comme la forme d'un hexagone. Qui aurait pu imaginer la forme d'un hexagone? L'hexagone, une forme à six côtés, se répète partout dans la nature. Pensez-vous que cela s'est produit tout seul? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Les ruches ont des hexagones. Les colonnes de basalte en Islande ont des hexagones. Ces piliers de pierre ont une forme hexagonale. C'est fascinant. On en trouve partout dans la nature. Que peut-on trouver d'autre? L'essentiel est que vous preniez le temps de vérifier et de méditer sur ces choses qui rendent Dieu réel pour vous, car il y a tout un tas de choses fascinantes à contempler. Il est dit ici dans les Romains que ces gens sont sans excuse. Dieu a laissé ses empreintes partout. Les mots « sans excuse » signifient « indéfendable ». S'ils se présentaient devant Dieu et exposaient leur cas, Dieu les considère comme étant dans une position indéfendable. Ils ne peuvent pas se présenter devant Dieu et se défendre efficacement. Je vous ai donné toutes ces preuves de mon existence et vous les avez balayées d'un revers de main en disant qu'il s'agissait d'un hasard, d'un Big Bang ou de quoi que ce soit d'autre, de l'évolution. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Nous devons être différents du monde. Nous devons le regarder différemment. Nous devons être curieux de la création de Dieu. Nous devons regarder les choses que nous voyons dans nos promenades quotidiennes et y trouver non seulement de la beauté, mais aussi un créateur intelligent et tout-puissant qui les a conçues. Passez au psaume 19. Psaume 19, premier verset. Celui-ci est intéressant. Il s'inscrit dans la même logique de méditation et d'apprentissage de la création. Le premier verset du psaume 19 dit ceci, « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et le firmament montre son ouvrage. » Pensez-vous que les cieux vous parlent? Ils proclament la gloire de Dieu. Je vous dis ce que dit la Bible. Mais quand nous regardons le ciel, nous pouvons voir des aurores boréales, des aurores boréales. Il peut s'agir du soleil, de la lune, des étoiles, des nuages, du coucher de soleil, de n'importe quoi. Lorsque nous regardons le ciel, nous parle-t-il réellement parce que c'est Dieu qui dit que l'univers, le ciel, vous parle réellement? Ce n'est pas le ciel physique, il ne parle pas vraiment, mais ce qu'il dit, c'est que Dieu vous parle à travers sa création. Il l'a créé pour vous dire des choses, pour vous prouver que Dieu est vivant. Continuez à lire. D'un jour à l'autre, il prononce une parole. Chaque jour nous parle. Lorsque nous voyons le soleil se lever et se coucher, lorsque nous voyons les étoiles sortir la nuit, Dieu nous parle à travers sa création, nous montrant qu'il existe, qu'il est vivant. Et de nuit en nuit, la connaissance se manifeste. Il n'y a pas de parole ni de langage où leur voix ne soit entendue. Dieu nous dit en fait que peu importe que vous viviez dans la jungle amazonienne, à Londres ou dans les déserts d'Arabie Saoudite. Peu importe où vous êtes, quelle langue vous parlez, tout le monde peut apprécier et comprendre la beauté de la création de Dieu à travers les cieux. Il nous parle à tous. C'est vrai. Aucun homme n'est défendable. Nous sommes tous sans excuse pour pouvoir dire qu'il y a un Dieu. Verset 4. Leur parole s'est répandue sur toute la terre, leur parole jusqu'à l'extrémité du monde. C'est en eux qu'il a dressé la tente du soleil. Dieu a établi la place du soleil. Il a établi ceci, elle est comme une fiancée qui sort de sa chambre, et elle se réjouit comme un homme fort qui court une course. Il part de l'extrémité des cieux et son circuit s'étend jusqu'à l'extrémité des cieux, et rien n'est caché à sa chaleur. Le fait que nous soyons précisément à la bonne distance du soleil pour pouvoir maintenir la vie, pensons-nous à ces choses? Nous en souvenons-nous? Je sais que nous y avons tous pensé à un moment ou à un autre. Mais lorsque nous nous tenons à l'extérieur et que nous voyons les cieux, nous déclare-t-il la gloire de Dieu, nous contentons-nous de marcher dans notre vie? Il est très facile de faire cela. Très facile. Il se passe beaucoup de choses dans nos vies. Il est très facile pour nous d'être pris dans la course de la vie, en particulier au XXIe siècle. Mais prenons-nous le temps de réfléchir à ce que les cieux nous déclarent, et en fait, à ce que Dieu nous déclare, à savoir qu'il est vivant et en bonne santé. Il n'est pas seulement une idole morte. Comme beaucoup de catholiques, d'hindous ou d'autres personnes sur terre, ils adorent des idoles mortes. Dieu est vivant et il a des choses à nous dire à travers sa création. Maintenant, la question est de savoir si nous l'étudions, la méditons-nous, y réfléchissons-nous, allons-nous creuser et trouver d'autres choses qui ne figurent peut-être pas dans le livret Dieu existe-t-il? Il y a des preuves que vous pouvez partager avec d'autres personnes et les édifier. Dites, je n'ai jamais vu cela auparavant. J'ai été édifié par la suite de Fibonacci, et j'espère que vous l'avez été aussi. Le nombre d'or. Un exemple parmi d'autres. Je vous donne quelques exemples, quelques tremplins qui vous permettront de faire vos propres recherches. Pensez-vous au fait qu'il existe une symétrie dans toute la création? Chaque insecte est symétrique. Les êtres humains sont symétriques. D'une manière générale, nous ne sommes pas parfaits, les insectes non plus, mais les arbres sont généralement symétriques. Pensez aux fleurs, aux plantes, aux feuilles. Certaines roches sont symétriques. Même la forme de la pyrite, l'or des fous, se présente sous forme de cube parfait. Les êtres humains, les planètes. Pensez aux orbites des planètes autour du Soleil. Elles sont toutes symétriques. Pourquoi? Ce n'est pas le fruit d'un Big Bang. Ce sont tous les cieux qui nous déclarent. La Terre nous montre aussi les choses que Dieu a faites. Prenons-nous en compte toutes ces choses? Si l'on regarde les temples physiques que Dieu a construits dans le passé, qu'il a fait construire ou qu'il dit qu'il construira à l'avenir, on constate qu'il y a beaucoup de symétrie avec le temple. Beaucoup de symétrie. Il y a beaucoup de symétrie si vous regardez l'arche de Noé. Ce n'était pas une simple pièce de bois asymétrique. Non, Dieu l'a construite de manière très symétrique. Les navires sont construits de cette manière aujourd'hui. L'arche d'alliance est symétrique. Toutes les choses que Dieu a commandées, si je peux m'exprimer ainsi, ou qui l'a construite, était tout très symétrique parce que c'est ainsi qu'il pense. Il pense de façon décente dans un ordre. Nous avons une fenêtre sur la façon dont Dieu pense. Ainsi, lorsque nous voyons les bâtiments, les structures physiques et les bateaux que Dieu a construits ou fait construire dans le passé, nous constatons que la quasi-totalité de sa création est symétrique. Nous constatons également que la quasi-totalité de sa création présente une symétrie, qu'il s'agisse d'insectes, de plantes, d'arbres, de tout, de nous, c'est la preuve qu'il existe. Et cela devrait nous enthousiasmer. Cela devrait nous aider à nous rappeler régulièrement qu'il est vivant. Vous pourriez faire votre propre étude sur la musique. J'aime la musique, mais je ne l'ai pas beaucoup étudiée. Je suis sûr que vous pourriez trouver quelque chose de fascinant sur le fait que la musique, comme l'origine de la musique, d'où vient la gamme? Pourquoi la musique est-elle une onde? Je veux dire, il y a tellement de choses que tu pourrais chercher. Je vous garantis que si vous creusez un peu, vous trouverez une sorte d'empreinte de Dieu où que vous regardiez. C'est là tout l'intérêt, prendre le temps de méditer, prendre le temps d'apprendre à connaître la création. Ce faisant, vous découvrirez des choses qui vous fascineront, vous inspireront et vous rappelleront à quel point Dieu est vivant. Passons au point suivant. Considérons-nous que l'Église de Dieu à l'époque laodicéenne, est la preuve que Dieu est vivant et qu'il se porte bien. Nous sommes tous assis ici à des services. Nous pourrions être ici au siège ou nous pourrions être une personne qui garde les services seule ou avec un petit groupe. Peu importe où nous sommes. Le fait que nous soyons dans l'Église de Dieu est la preuve qu'il est bien vivant. Est-ce que nous y pensons ou est-ce que nous nous contentons de, si nous sommes dans l'Église de Dieu depuis un certain temps, est-ce que nous laissons cela? Je ne sais pas. Est-ce que nous laissons tomber? L'oublions-nous en quelque sorte? Oublions-nous à quel point il est spécial de faire partie de la seule vraie Église que Dieu dirige dans l'ère finale? Passez à l'Apocalypse, chapitre 3. Apocalypse 3. Verset 14. Apocalypse 3, verset 14, dit ceci, « Et à l'ange de l'église de Laodicée, les Laodicéens, écrivez. » C'est l'ère finale, l'ère dans laquelle nous vivons, l'ère que M. Paquet essaie d'atteindre et d'ouvrir leurs yeux aux vérités que vous et moi connaissons. C'est l'environnement dans lequel non seulement nous vivons du point de vue de la scission, mais aussi l'environnement dans lequel le monde entier est plongé. Lisons-le. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais vos œuvres, vous n'êtes ni chaud, ni froid, ni brûlant. Je voudrais que vous soyez froid ou chaud. Dieu préfère que nous soyons froids plutôt que tièdes. Considérez cela. C'est en fait une chose fascinante à contempler. Dieu préfère que nous soyons morts de froid, spirituellement parlant, plutôt que d'être tièdes. C'est dire à quel point il déteste la tiédeur. C'est vraiment une chose puissante à considérer. Je connais vos œuvres, et je sais que vous n'êtes ni chaud ni froid. Je voudrais que tu sois froid ou chaud. Alors, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni chaud, je te vomirai de ma bouche, parce que tu dis, je suis riche et comblé de biens, et je n'ai besoin de rien, et je ne sais pas si tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ces personnes pensent qu'elles ont tout compris. Ils n'ont pas besoin de Dieu. Il dit qu'ils sont malheureux, misérables, pauvres, aveugle et nu. Et il dit, « Je vous conseille de m'acheter de l'or éprouvé par le feu, afin que vous soyez riches, et du vêtement blanc, afin que vous soyez vêtus et que la honte de votre nudité ne paraisse pas. Et d'oindre vos yeux de collyre, afin que vous puissiez voir. Tous ceux que j'aime, Je les reprends et les châtie. Soyez donc zélés et repentez-vous. Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. À celui qui est ici, j'accorderai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Vous connaissez le mot Laodicée, vous l'avez souvent entendu. Laodicée signifie que c'est le peuple qui décide, que c'est le peuple qui gouverne, qui juge et qui décide. Les gens de cette époque ne comprennent pas vraiment à quel point il est important d'être dans une seule vraie église. C'est l'un des derniers points que nous abordons ici. Voyons-nous l'église de Dieu? Rappelez-vous, est-ce que nous voyons l'église de Dieu et combien il est spécial de faire partie de la seule vraie église dans l'ère laodicéenne comme une preuve de l'existence de Dieu? Parce que Dieu a dit que les portes du tombeau ne prévaudront pas contre l'église. Rien ne détruira l'église de Dieu. Elle restera vivante. Même à une époque où toutes sortes de personnes gouvernent, jugent et décident. Nous avons le privilège unique d'être parmi des frères qui parlent tous de la même chose. Nous avons le même esprit et le même jugement. Ce n'est pas le cas dans l'ère laodicéenne. Et ce n'est pas le cas dans le monde. Si vous allez dans les congrégations, soit dans les groupes dissidents de l'ère laodicéenne, soit dans le monde, vous constaterez que les gens peuvent croire ce qu'ils veulent. Il n'y a pas d'unité. Vous pouvez avoir une doctrine qui vous est chère ici. Vous pourriez être un ministre prêchant des choses qui sont tout simplement fausses et vous ne seriez pas retiré du ministère, ou expulsé de l'Église parce que c'est correct. Tout est accepté. Tout va bien. Tout le monde a son opinion et il n'y a pas de vérité centrale. C'est ce qui sépare l'Église de Dieu du reste de cette époque, franchement, et qui la rend si spéciale. Nous sommes d'un seul esprit et d'un seul jugement. Vous pouvez aller à Abu Dhabi, en Inde, en Australie ou en Amérique du Sud. Vous pouvez aller n'importe où dans le monde. N'importe qui dans le monde qui est dans RCG et dans le ministère aussi, enseignera la même chose. C'est choquant. Mais vous ne pouvez pas croire à quel point c'est rare et spécial à notre époque parce que c'est inexistant en dehors de l'Église de Dieu. Tout le monde a son opinion et c'est Dieu qui le dit. Il suffit de croire ce que Dieu dit au sujet de l'ère laodicéenne. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Tout le monde a ses propres idées. 1 Corinthiens, chapitre 1 et verset 10. Monsieur Peck a insisté à maintes reprises sur ce point et sur son importance. Verset 10 du premier chapitre des Corinthiens. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à parler tous de la même manière. Qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais que vous soyez parfaitement unis dans une même pensée et dans un même jugement. Frères et sœurs, c'est ainsi que nous nous décrivons. Cela ne veut pas dire que nous sommes tous parfaits, mais quand il s'agit de ce que nous enseignons, de ce que nous croyons, aucun d'entre nous n'est en désaccord. Nous croyons tous la même chose. Nous obéissons à Dieu. Mais la question demeure, nous souvenons-nous que c'est l'oasis que Dieu nous a donné au milieu de la mer de la pensée laodicéenne dans ce monde? Dieu nous a donné cet endroit spécial et précieux où nous pouvons être unis et lui obéir et le suivre. Et franchement, mes frères, nous en revenons à ce point, cela prouve qu'il est vivant. Cela prouve qu'il est vivant. Nous ne pouvons pas l'oublier. Nous ne devons jamais oublier comment cette seule et véritable Église prouve l'existence de Dieu. Passez au chapitre 12 des 1 Corinthiens, quelques chapitres plus loin. Le chapitre sur le corps du Christ. Le verset 12 dit ceci, « De même que le corps est un et qu'il a plusieurs membres, et que tous les membres de ce corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Christ n'est pas divisé. Le corps du Christ n'est pas divisé, et nous le voyons dans l'unique et véritable Église de Dieu. Car c'est par un seul esprit que tous ont été baptisés pour former un seul corps, qu'ils soient juifs ou païens, esclaves ou libres, et qu'ils ont tous été abreuvés d'un seul esprit. Cet esprit n'est pas divisé, Christ n'est pas divisé, et le corps n'est pas divisé. Descendez au verset 20, il y a maintenant plusieurs membres, nous sommes tous des personnes individuelles appelées à faire partie de ce corps, mais nous formons un seul corps. Le corps du Christ n'est pas divisé en 400 groupes différents, il se trouve en un seul endroit. Nous en souvenons-nous? Voyons-nous cela comme, oh là là, c'est si spécial que je sois ici. C'est la preuve que Dieu est vivant. Verset 24. Car nos belles parties n'ont pas besoin, mais Dieu a tempéré le corps ensemble. Tempérer signifie unir ou combiner le corps ensemble, ayant donné plus d'honneur à la partie qui manquait. Qu'il n'y ait pas de schisme, pas de division ou de brèche dans le corps, mais que tous les membres aient les mêmes soins les uns pour les autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui, parce que nous sommes unis. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres en particulier. Je conclurai donc ce point en disant simplement que dans d'autres organisations, les membres, les ministres, qui que ce soit dans ces autres organisations, y compris les églises de ce monde, peuvent croire ou enseigner ce qu'ils veulent, en général. Ils ont la liberté et la flexibilité. Mais peu d'entre elles sont vraiment unifiées. C'est le contraire dans l'Église de Dieu. Nous sommes tous unifiés. C'est une empreinte digitale massive de Dieu qu'il existe. Et c'est vraiment un miracle. C'est un miracle comme notre vocation. Notre vocation est un miracle. Le fait que la petite église soit vivante est un miracle. Et encore une fois, une preuve massive de l'existence de Dieu. Mais y pensons-nous? Nous souvenons-nous d'y penser? Considérons-nous à quel point nous sommes unis et à quel point il est spécial de faire partie de cette organisation? Et la dernière partie est liée à cela. Et la Sommenette en a parlé. Est-ce que nous reconnaissons, continuons à lire ici dans la 1 Corinthiens 12, reprenons au verset 28. Associé à ce corps, il est dit. Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, des docteurs, après cela des miracles et des dons de guérison, d'assistance, de gouvernement, de diversité de langues. Et il est dit au verset 29, « Tous sont-ils apôtres? Sont-ils tous prophètes? Sont-ils tous des docteurs? Sont-ils tous des ouvriers de miracles? Ont-ils tout le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Mais convoitez avec ardeur les dons les plus excellents. Mais je vous montrerai une voie plus excellente. » Une partie du corps du Christ est le fait que Dieu a son gouvernement. Et une autre chose que nous pouvons très facilement considérer comme acquise est le fait que nous vivons à une époque, tout comme la sixième époque, qui est dirigée par un apôtre. Prenons-nous le temps de reconnaître à quel point c'est spécial. L'époque du premier siècle avait des apôtres, plusieurs apôtres. Mais à part le premier siècle et vers la fin, le XXe siècle, le XXIe siècle, il n'y a peut-être eu que quelques autres apôtres, Pierre Waldo peut-être, ou quelques autres personnes au cours des deux derniers millénaires qui auraient pu être des apôtres. C'est rare. Mais Dieu nous l'a prouvé par les fruits, et nous pouvons le voir aussi par les vérités qui sont révélées par la prophétie, la vérité vient à l'Église par les apôtres, L'évidence de cela est manifeste. C'est évident. Mais y voyons-nous une preuve que Dieu existe, qu'il est vivant et qu'il travaille ici, qu'il est avec nous? Nous vivons uniquement à une époque dirigée par un apôtre, et toutes les époques n'ont pas eu un tel prophète et une si merveilleuse bénédiction. Nous nous tournons vers le 1er Pierre, chapitre 1, dernier verset. 1er Pierre, chapitre 1, et verset 7. Pierre dit ceci, « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que celle de l'or qui périt quand il est éprouvé par le feu, soit trouvée en vue de la louange, de l'honneur et de la gloire, lors de l'apparition du Christ. » Parlant du jour du Seigneur, celui que vous aimez sans l'avoir vu est invisible. En lui, bien que vous le voyiez maintenant sans y croire encore, vous tressaillez d'une joie indicible et pleine de gloire, recevant la récompense de votre foi, le salut de vos âmes. C'est de ce salut que se sont occupés les prophètes, qui ont prophétisé la grâce qui devait vous arriver, et qui l'ont recherchée avec soin. Les prophètes, les apôtres, les frères des époques et des âges passés ont cherché à comprendre les vérités que nous avons sur la prophétie. Nous voyons toujours à travers un verre sombre. Il ne fait aucun doute que lorsque la perfection viendra, nous verrons parfaitement. Mais prenons-nous pour acquis à quel point il est spécial que Dieu nous ait dévoilé une si grande partie d'un tiers de la Bible, appelée prophétie, à sa dernière époque? Nous en souvenons-nous? Prenons-nous le temps de considérer cela comme la preuve que Dieu est vivant, la preuve qu'il est ici avec nous? Voyons-nous cela comme une preuve, de la même manière que les cieux nous l'annoncent? Voyons-nous cela comme une preuve de la même manière que les épreuves et les tests dans les jours de prospérité sont une preuve que Dieu est avec nous? Toutes ces choses, mes frères, indiquent un Dieu créateur, mais pas qu'il est juste académiquement le créateur. D'accord, j'ai prouvé que Dieu existe. C'est bien, mais qu'il travaille dans votre vie et qu'il est vivant. C'est un Dieu vivant. Ce n'est pas un Dieu mort. Frères et sœurs, pour le chrétien avisé, les preuves de l'existence de Dieu se trouvent partout où nous nous tournons, partout. Des bénédictions et de la prospérité, dans les jours de prospérité, aux épreuves et aux jours d'adversité. Tout autour de nous dans la création, depuis la séquence de Fibonacci jusqu'au hexagone et tout ce que vous allez étudier par vous-même pour prouver l'existence de Dieu. À travers son Église, son travail et son gouvernement, Dieu est présent et vivant, mais la question demeure, le verrons-nous ?